nous accueillons ce soir Alice Verstraten, que je vais tutoyer car je la connais, donc je ne vais pas faire semblant, on n'est pas non plus dans le studio. Alice a une formation en anthropologie qui l'a amenée à faire un long travail en Argentine, je ne me souviens plus en quelle année.
À partir de 2003.
Et installée dans le Diwa depuis quelques temps, elle a créé la maison d'édition des Collemboles, mais ce travail d'éditrice ne l'a pas complètement aidée à abandonner l'histoire argentine. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter Face à l'abîme, que j'ai lu en avant-première il y a déjà plus d'un an, 2 ans, je pense. Donc, dire si c'est un travail de longue haleine entre donc, le terrain sur lequel elle a poussé il y a une vingtaine d'années et puis un livre qui était déjà en gestation depuis un moment, qui est un peu dans la continuité de ton travail de thèse. Mm-hmm. Et si je ne m'abuse et tu me corrigeras, tu avais envie justement de remettre en forme à travers ce livre tout ce que la thèse avait laissé de côté par rapport à ce que tu avais pu traverser et par rapport aussi, je trahis peut-être déjà quelque chose, mais par rapport aussi à l'actualité qui était la nôtre en 2020 avec un contexte politique un peu étrange et en tout cas nouveau pour nous et qui a fait écho chez Alice et qui a du coup permis la création de ce livre.
Ouais. C'était l'impulsion finale, on va dire. Ouais. Oui, l'impulsion finale, c'est quand même une inquiétude sur l'état de nos démocraties aussi, qui à un moment donné m'a fait dire que ce travail que je menais depuis 20 ans était peut-être pas complètement dépassé et pouvait continuer à intéresser des gens au présent et ici, même si c'est une histoire qui a commencé en 1976 en Argentine et voilà, un petit peu à l'autre bout du monde. Donc j'ai eu parfois des gens qui me disaient non, mais les dictatures c'est des histoires du passé. Non, mais l'Amérique latine, ça commence à faire loin. Puis l'Argentine et le Chili, on en a beaucoup parlé. Donc il y a eu des moments où je me demandais si cette histoire pouvait encore faire sens en Europe. Et clairement, voilà, la dictature argentine, elle a traqué les subversifs judéo-communistes. Quand j'entends islamo-gauchiste, j'ai le vertige parce qu'en fait le néologisme est aussi absurde et quand je parle des néologismes de la dictature argentine en France dans des conférences, tout le monde ricane. Mais comment les gens ont pu y croire, mais que c'est ridicule. En fait, on a les mêmes discours ici et on y croit, une partie d'entre nous y croit. Alors bien sûr, je dis beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui chez Videla ou chez le Pinochet chilien que tout le monde connaît mieux, mais il faut arrêter de croire que les dictatures, c'est toujours ailleurs, que ça vient du jour au lendemain. En fait, il y a quand même des éléments phares qui balisent les sentiers de la chute et il y a des éléments phares qui sont présents aujourd'hui en Europe. Donc je trouvais important de revenir là-dessus. Après, c'est pas du tout un livre où je vais m'étaler sur le jeu des parallèles entre les deux, parce que ça, c'est difficile à faire. C'est vraiment un livre historique et anthropologique sur ce qui s'est passé en Argentine. Les gens après font les liens qu'ils veulent, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte en le travaillant, je le savais en théorie, et en fait travailler l'histoire c'est travailler le présent, et là c'est devenu flagrant avec ce sujet là dans les années 2020. Tout à fait.
Et puis on retrouve là, c'est quelque chose dont tu reparles assez loin dans le livre, mais qui est un peu ce qui est saillant pour moi aussi quand je l'ai lu et quand je l'ai relu, c'est comment et c'est ce que ce livre aide bien à faire, c'est comment concilier l'indignation et la réflexion. C'est-à-dire comment on peut à la fois aborder les choses d'un point de vue historique, anthropologique, analytique, et cependant conserver une part d'émotion, et ou alors à l'inverse, comment faire qu'une émotion très forte avec une part d'indicibilité très forte par rapport à l'horreur de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, comment au contraire en faire une matière moins émotive. Et pour ce faire, du coup, Alice s'est appuyée aussi sur la métaphore du tissu. Alors il faut savoir aussi que les éditions Les Collemboles ont cette particularité d'associer beaucoup images et textes dans les premiers livres qui ont été édités. Donc vous retrouverez tout au fil du livre. des illustrations voilà, on y a du coup différents portraits, donc certains ont été réalisés par toi, d'autres par ta maman.
Oui, tout
Et d'autres sont des travaux de Ute Wolf, qui est une plasticienne qui travaille beaucoup sur le tissu. Je dis ça parce que du coup, on retrouve aussi dans son dans le travail qui est exposé, on a ce, on travaille sur les, enfin tu le rediras mieux que moi, mais les différents aspects de la mort sociale, la mort culturelle des gens, et du coup on associe ça aussi à travers la lecture à quelque chose qui se déchire, qui se délite. Et ce que propose Alice, donc on est face à l'abîme, donc on va descendre dans l'abîme, et la remontée sera une façon de retisser justement du lien social et du lien culturel. Comment s'est passé pour toi les premières... qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'interroger sur le terrain, à l'histoire de l'Argentine, et comment es-tu arrivé là-bas en 2003 ?
Ouais. Ah ben, les gens me demandent si c'est par amour du tango que je suis arrivée en Argentine, mais pas du tout. En
fait, je suis arrivée
en Argentine un peu par hasard. J'ai pas choisi le pays, on va dire. Je suis pas arrivée par hasard, mais j'ai pas choisi le pays. En fait, c'est la question de la disparition forcée qui m'y a amenée, moi. En fait, j'ai commencé par faire de l'humanitaire au Togo, en Afrique de l'Ouest, et je suis tombée en pleine dictature du général Eyadema Père, qui pratiquait la disparition forcée. Donc à la fin de la saison sèche, quand la lagune s'asséchait au centre de Lomé, on retrouvait des corps des opposants dans la vase, ou parfois sur les côtes béninoises voisines, les flots ramenaient des corps. Et les gens là-bas m'ont dit « mais c'est une technique qui vient d'Argentine ». La phrase m'est restée ad vitam aeternam. Voilà, je suis revenue en France et j'ai commencé à étudier l'histoire et les droits humains à Lyon, à l'Institut des droits de l'homme de Lyon. Là, je suis tombée dans une promotion où, en fait, il y avait de nombreux Colombiens qui avaient été exfiltrés de leur pays par Amnesty International, parce qu'ils étaient militants des droits humains, donc c'est des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, hein, et qu'ils étaient menacés de disparition forcée dans leur pays. Donc voilà, j'ai fait mes études avec eux, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Ils ont décidé de retourner en Colombie, ils m'ont proposé de les accompagner, et là, moi, je l'ai pas trop senti. Voilà, parce qu'on travaillait là-dessus en Colombie, aujourd'hui encore, c'est être menacé de mort, directement. Or, à ce moment-là, en 2003, en Argentine, c'était l'arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner et l'abolition des lois d'impunité. Donc, tout à coup, il y avait un pays d'Amérique latine où il était possible, il y avait une parole publique qui se libérait, il était possible de mener des recherches sur la disparition sans être directement menacé. Alors, l'Argentine, c'est un pays fédéral, donc ça, c'était vrai à Buenos Aires et dans la province de Buenos Aires. C'était moins vrai dans d'autres provinces d'Argentine, où j'ai une amie qui, simplement du fait de travailler avec les Guarani sur leur mode de vie, était menacée de mort. Parce qu'elle était dans une province où les militaires et leurs proches étaient encore au pouvoir. Donc c'est vrai que c'était pas le cas partout en Argentine. Mmh. Mais voilà, donc je suis arrivée à l'Argentine pour une mauvaise raison. Mais voilà, c'est le pays d'Amérique latine qui a subi le plus de disparitions forcées dans le laps de temps le plus court. Donc l'Argentine, elle était membre de ce qu'on a appelé le plan Condor, un plan secret d'éradication des opposants qui liait les différentes dictatures du continent. Donc un opposant guatémaltèque, chilien ou uruguayen pouvait être enlevé en Argentine, torturé, assassiné en Argentine ou renvoyé dans les prisons de son pays. Mais voilà, il y avait une alliance secrète, et c'est en Argentine que ça a été le plus dense. Et en plus, l'Argentine est un pays très vaste, mais avec de grandes terres très peu peuplées, et la population est très centrée sur Buenos Aires. Donc finalement, en étant à Buenos Aires, j'avais une espèce d'unité de temps et de lieu, comme au théâtre, pour faire de l'ethnographie, ce qu'on recherche d'habitude en ethnographie quand même, pouvoir se délimiter un cadre précis. J'allais travailler sur 30 ans d'histoire, donc c'était bien d'avoir un cadre géographique très, très restreint. Voilà.
Et donc, pardon, le laps de temps, c'était quelle année
La dictature
disiez, hein. Ouais, vous disiez que là où il y a le plus de disparitions.
Alors, la dictature a duré de 1976 à 1983, okay. Mais en fait, je dis peut-être une bêtise, mais c'est de l'ordre des 80% des disparitions ont eu lieu entre 1976 et 1977, la première année. Au bout d'un an, les deux grands groupes de guérilla qui s'opposaient au pouvoir, donc l'ERP, l'Ejército Revolucionario del Pueblo, l'armée révolutionnaire du peuple, ou les Montoneros, qui eux étaient des militants chrétiens de gauche, ces deux groupes-là, au bout d'un an, ils disent qu'ils ont perdu 80% de leurs militants. Voilà, donc c'est vraiment dans ce laps de temps-là. Après, c'est les chiffres que donnent ces groupes. Après, il y a eu beaucoup de disparus ouvriers aussi. Et là, voilà, moins... moins structurés politiquement, donc c'est plus difficile de savoir quand ils ont été enlevés. Il y a encore des dénonciations à l'heure actuelle de disparition, des gens qui se mettent à parler que maintenant. Voilà. Donc la dictature tombe en 1983, mais elle tombe pas parce qu'elle est vaincue militairement. Elle tombe parce qu'elle a perdu la guerre des Malouines contre l'Angleterre, et elle tombe parce que économiquement elle est en train de s'écrouler. Mais elle négocie le retour à la démocratie en échange de lois d'impunité. Donc ils sont militairement invaincus et ils réintègrent leur vie d'avant. Ils gardent leur grade militaire ou ils réintègrent leur vie civile, ils deviennent chefs d'entreprise, etc. Donc par exemple le président Macri, qui était le précédent président argentin, est directement issu d'une famille de tortionnaires de la dictature. C'est un pays assez curieux pour ça. Et malgré tout, à partir de 2003, il y a des juges qui osent dire « mais en fait, ces lois d'impunité, elles sont anticonstitutionnelles ». Et là, ça s'ouvre, l'impunité tombe et des procès ont lieu. Donc c'est leurs concitoyens qui les jugent. Voilà. Ça qui est très différent du procès de Nuremberg, par exemple, où c'est vraiment des vainqueurs qui ont mené le procès des vaincus.
Mais ça veut dire aussi que pendant 20 ans, les familles et les personnes concernées sont restées sans justice, sans reconnaissance et surtout sans deuil. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que tu abordes très bien à travers toutes les personnes que tu as rencontrées. C'est de rendre au-delà des chiffres des 3000 disparus. La force aussi de ce bouquin, c'est que du coup, on rencontre vraiment... les différentes personnes qui sont là et on a l'impression d'être en conversation avec elles. Tu relates aussi justement la façon dont elles sont chacun et chacune attentives à tes réactions et la difficulté de raconter parfois ce qui s'est passé, la difficulté de l'attente, puisque pendant des années, tu témoignes aussi du fait que certaines familles ont attendu jusqu'à mettre... un couvert encore, ou en tout cas de ne pas pouvoir poser de nom. Donc c'est de, voilà, de ne pas se cantonner à un nombre de disparus, mais d'accompagner, enfin en tout cas de faire comme une rencontre avec ces familles qui pendant 20 ans n'ont rien su et n'ont rien pu faire. Notamment, alors ça c'est l'objet essentiellement de la troisième partie du livre, mais notamment les mères. Alors j'avance peut-être un peu, mais on peut revenir en arrière après, mais ce qui est c'est aussi quelque chose qui m'a marqué parce que les manifestations des mères sont autorisées comme si les femmes, et en particulier les mères, n'étaient pas dangereuses par rapport à d'autres récriminations. Ça a peut-être un peu changé maintenant, mais puis il y a quand même eu quelques mères qui ont été arrêtées.
Ils ont eu le temps de changer d'avis, je crois, depuis. Ouais. Hein, mais ils se sont vraiment, vraiment plantés là-dessus. Ouais, la dictature, c'est la plus grosse erreur tactique. Oui. Ben, en fait, la dictature se voulait chrétienne et occidentale. Donc, au moment de la prise de pouvoir, ils ont publié ce qu'ils appelaient un acte de réorganisation nationale, où ils ont expliqué leurs grandes intentions. Et là-dedans, déjà, il est dit que la femme, elle est là pour protéger le foyer. Hein. Donc le seul travail autorisé pour eux dans leur tête, c'était pas autorisé légalement, mais le seul travail honorable, on va dire, pour une femme, c'était d'être enseignante. À la limite, c'était conçu comme le prolongement de la maternité. Et clairement, quand les premières mères ont commencé à chercher, voilà, leurs enfants s'étaient fait enlever par un escadron à la maison. L'escadron était venu avec une voiture de la police, sans plaque d'immatriculation, mais une voiture de la police, donc le lendemain, on va au commissariat, on va au palais de justice, etc., on cherche. Et là, on leur a beaucoup renvoyé, mais comment ça, vous êtes une mère et vous ne savez pas où est votre enfant? Mais vous êtes vraiment une mère indigne, mais voilà. Et du coup, elles ont joué là-dessus. Ben voilà, oui, je suis une mère, je veux savoir où est mon enfant, je suis une mère responsable, je veux savoir où est mon enfant. Elles ont retourné un petit peu l'argument de la dictature. Et elles ont compris là qu'il y avait une faille. Donc les manifestations étaient interdites, mais elles se sont présentées sur la place de Metz devant le siège du gouvernement. Elles se sont mises deux par deux, parce qu'à partir de trois, c'est un rassemblement, mais à deux, ça ne l'est pas encore. Elles se sont mises à tourner en rond, parce que bon, une manifestation, habituellement, on ne tourne pas en rond, donc ce n'était pas une manifestation. Et puis finalement, c'est resté. Et encore aujourd'hui, tous les jeudis, elles tournent en rond sur la place de Metz. Et en fait, ce que me disent beaucoup de mères, c'est qu'ils auraient dû les arrêter le premier jour. Quand elles sont rentrées vivantes chez elles le premier soir, elles n'en revenaient pas, en fait, d'être vivantes. C'était déjà une énorme victoire. Et il y avait des gens qui les avaient vues. Et du coup, à partir de là, les tortionnaires ne pouvaient plus les faire disparaître quelque part parce que c'était... c'était se contredire sur le fait qu'une mère doit savoir où est son enfant, et elles ont vraiment joué là-dessus. Par contre, si elles croisaient leur mari, leur cousin, leur frère sur la place de mère, elles faisaient semblant de ne pas les connaître, pour ne pas les impliquer dans le réseau, parce qu'eux risquaient vraiment de disparaître.
Et pourtant, il y a eu énormément de disparitions forcées de femmes.
Il y a eu des disparitions forcées de femmes, oui, y compris avec leurs enfants.
Ouais.
Mais je crois que le fait que ce soit des mères honorables, c'est-à-dire des petites mères de famille, beaucoup, celles qui pouvaient venir manifester en plus, c'était plutôt celles qui étaient issues de la bourgeoisie, qui étaient mères au foyer, parce que les autres, elles étaient à l'usine. Donc celles qui pouvaient se risquer à se montrer sur la place de mai n'étaient pas tout à fait dans le cliché de la révolutionnaire. Voilà. Elles avaient un âge aussi qui faisait qu'elles étaient censées être respectables, enfin voilà, parce que c'est, la majorité des disparus sont des jeunes. Il y a clairement aussi une fracture générationnelle entre l'église et l'armée au pouvoir en Argentine en 76 et la jeunesse qui émerge sur la scène politique, qui est influencée par les 68, qui est influencée par le Che, qui, voilà. Donc il y a vraiment une fracture générationnelle, ouais. Et oui, ils en ont quand même fait disparaître les toutes premières. Au bout de quelques mois, hein, en 77, ils enlèvent la fondatrice du mouvement, Azucena Villaflor, d'autres mères et deux religieuses françaises qui étaient plutôt du côté des théologiens de la libération, donc des catholiques communistes. Et ils les ont enlevées, ils les ont torturées, ils les ont assassinées, ils ont fait disparaître leur corps. Et le mouvement s'est pas arrêté pour autant, parce que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que c'était un mouvement qui n'avait pas besoin de leader, justement. C'est quelque chose qui était assez inconcevable pour ces hiérarchies militaires. Voilà, c'était des mères à qui on avait arraché leurs enfants, donc en fait, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui les arrête, de toute façon. Elles sont prêtes à disparaître, clairement. Ça ne les arrête pas. Ouais.
Mais à partir... Moi, je n'ai pas mémorisé à partir de quel moment la disparition forcée a été reconnue comme étant un crime contre l'humanité.
Alors, j'ai plus la date exacte en tête non plus. Mais très longtemps après, 20 ans après, hein, je ne sais plus, 2000... Alors, je crois que que ça a été... Je vais peut-être dire une bêtise, mais que les textes internationaux sont entrés en vigueur en 2005 seulement.
Ok.
Je crois quelque chose comme ça. En tout cas, c'est clair que c'est les maires de la place de Mai, entre autres, qui ont participé à l'élaboration de ces textes à l'ONU. Hein. Ils se sont déplacés plusieurs fois à l'Assemblée Générale pour exprimer la douleur unique que c'était, finalement, cette disparition forcée, qui a été reconnue depuis comme un crime contre l'humanité et un crime de génocide. Mais jusque-là, on tournait autour. Donc c'était une accumulation de crimes différents. Il y avait enlèvement et séquestration, il y avait torture, il y avait exécution extrajudiciaire, occultation des corps. Mais tout ça, mis bout à bout, ça ne dit pas ce que ça fait tout ça ensemble, à quel point ça impose une douleur sans fin aux familles, et même une douleur exponentielle, parce qu'en fait, chaque déni vient remuer le couteau dans la plaie. Donc, elles ont beaucoup œuvré pour ça, elles ont été accompagnées d'un mouvement, notamment de psychanalystes argentins, qui a beaucoup travaillé sur la violence d'État et la psychanalyse. Elles ont été accompagnées par des militants des droits humains un peu partout. Et elles ont essaimé, c'est-à-dire que moi j'ai été contactée par exemple par la Fédération Européenne de Lutte contre les Disparitions Forcées, parce qu'ils veulent que je vienne expliquer à des victimes, notamment irakiennes, comment les mères de la place de Mai se sont battues, en espérant qu'elles trouvent des outils là-dedans pour se battre à leur tour, ce qui est très compliqué en fait, hein, parce qu'elle est transposée d'une culture à l'autre, il faut que chaque culture trouve ses failles. Mais c'est sûr qu'en même temps, il y a des outils de base qu'elles ont utilisés qui joue partout, je pense. C'est la créativité, en fait. Hein. C'est les codes de l'art, c'est l'invention, c'est la théâtralisation, c'est la mise en scène. Enfin, voilà, c'est un crime qui joue sur l'invisibilisation. Donc, la seule solution, c'est de visibiliser. Alors, elles n'avaient plus les corps de leurs enfants, mais elles ont mis leur corps, elles ont interposé leur corps entre le silence et la vérité. Voilà.
Tu parles de violence d'État, mais à l'époque, est-ce que les personnes n'avaient conscience que c'était l'État derrière les escadrons ?
Assez rapidement, assez oui, rapidement. Et c'était assez accepté, parce que ça a été travaillé en amont par la propagande, hein, énormément. Donc, dans les années précédentes, de 60 à 76, il y a des escadrons de la mort, des groupes paramilitaires qui font déjà des victimes dans les rangs de la gauche. À partir de 75... Celui qui dirige le plus gros escadron de la mort en Argentine, la triple A, l'Alliance anticommuniste argentine, José López Rega, il est aussi ministre du bien-être social du gouvernement démocratique. Il fait les deux à la fois. Et là, évidemment, c'est sous ce gouvernement-là qu'on bascule dans la dictature. Et la dictature, elle est plutôt bien accueillie parce que la propagande a présenté les militants de gauche depuis 10 ans comme des terroristes, comme des gens qui allaient mettre à bas toute la société argentine. On parle d'un ennemi intérieur, on parle même de crimes qui peuvent être inconscients. Oui, il y a une citation, je ne peux pas la trouver là, mais c'est incroyable, c'est du Orwell. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à dire que les artistes qui déforment le verbe aimer et ceux qui inconsciemment pensent à la subversion doivent disparaître aussi. Après, il y a dans cette société argentine, il y a aussi... Voilà, la société, elle est pétrie d'anticommunisme à cette époque-là. Ils sont juste en dessous de l'Amérique du Nord. Les hiérarchies militaires sont formées en Amérique du Nord, notamment à l'école des Amériques, à la lutte anti-subversive. Ils sont formés par des vétérans de l'OS et des commandos Delta français, à la torture notamment. Donc on retrouve les mêmes techniques de torture qu'en Algérie. Et puis, l'Argentine de ces années-là, elle est quand même imprégnée de nazis qui ont fui l'Europe à partir de 1945. Donc c'est en Argentine qu'on a retrouvé Eichmann, Mengele est passé par l'Argentine, Rochman, enfin bon, il y en a plein. Et quand ils le souhaitaient, ils étaient réintégrés dans l'armée argentine au grade perdu dans la Wehrmacht. Donc le nazisme a infusé quand même.
C'est une bonne couverture sociale et professionnelle. Tout le monde ne peut pas faire ça quand on est médecin roumain et qu'on arrive en France, c'est moins facile.
C'est plus compliqué. On ne réintègre pas le grade. Non. Et donc, on a retrouvé des camps, notamment le camp qui s'appelait El Atlético, le club de sport. Quand des témoignages ont commencé à filtrer sur ce camp, ils ont décidé de le détruire. Donc c'était un camp qui avait un bâtiment de logistique de la police, et puis ils torturaient au sous-sol. Donc ils ont abattu les murs, ils ont rempli le sous-sol avec les décombres des étages, et ils ont construit une autoroute dessus. Malgré ça, les témoins ont réussi à localiser le lieu, alors que pendant toute la détention, ils avaient les yeux bandés, etc. Mais pendant leur détention, ils entendaient la route, ils entendaient le port, ils entendaient ci, ils entendaient ça. Ils ont réussi à localiser le quartier. Les images satellites et autres ont prouvé que l'autoroute avait été construite pile au moment où... Bon, bref, ils ont trouvé l'endroit. On a pu faire des fouilles archéologiques à partir des années 2000. Et dans les décombres, on a trouvé des croix gammées, Mein Kampf, des portraits d'Hitler. Voilà, il y avait des preuves matérielles de ce qu'avançaient les survivants, qui est que vraiment il y avait une nostalgie du nazisme très forte chez certains. Et dans l'ensemble de la société aussi, quand même. C'est vrai que c'est une minorité, quand même, ces militants de gauche. C'est une minorité qui fait peur. Et les gens ont fermé les yeux, clairement. Une des survivantes, Anna Marie, a dit que c'était le secret de famille de notre société. En fait, tout le monde était au courant, mais personne ne disait rien, personne ne s'y opposait. Par peur d'être enlevé à son tour peut-être, mais aussi parce que quelque part, quand pendant des années avant on a agité l'idée que ses opposants sont des terroristes, on se dit, contre le terrorisme, il n'y a pas d'autre solution que la terreur. C'est ce qui est l'argument principal qui est avancé, c'est l'argument de Guantanamo aussi, et c'est l'argument à craindre quand on entend des gouvernants parler d'éco-terroristes, par exemple. C'est l'argument qui me fait très peur, moi. J'ai l'impression de voir autour de nous... la société se scindait autour de ce terme-là. Voilà. C'est très manichéen quand on parle de terrorisme. Il n'y a plus de nuances, et il n'y a plus de droits, et il n'y a plus d'altérité. Donc ça a été très travaillé en amont, je pense.
Ce qui laisse perplexe aussi quand même, c'est justement l'impunité qu'on sent entière chez les gens qui ont été malgré tout... jugé et condamné parmi les tortionnaires. Ça reste, et c'est pas du tout un reproche, mais ça reste quelque chose qui reste complètement incompréhensible, même après la lecture. C'est-à-dire comment, en dépit de l'utilisation d'un vocabulaire, de construction politique, comment ils en sont... Parce que tu évoques aussi le fait que des disparitions ont encore été pratiquées il n'y a pas si longtemps, peu de temps après ton passage en Argentine.
Quand j'y étais,
un témoin a été enlevé et a fait l'objet d'une disparition dans le sens technique de la chose. Et ça reste pour le coup encore plus incompréhensible que. Et le travail continue par rapport à ça avec les bourreaux et les gens qui ont été arrêtés ou...
Alors le travail de justice continue. Des procès fleuves qui ont eu lieu, qui ont duré par phase de 2-3 ans. Le procès de l'ESMA, qui est le plus grand camp de disparition de Buenos Aires, a eu, je crois, 3 phases de 2 ans. On en est à 3 phases de 2 ans de procédure, d'audition de témoins, etc. Et malgré tout, effectivement, alors il y a eu des condamnations à perpétuité pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Et malgré tout, les nouveaux tortionnaires qui sont auditionnés continuent à être droits dans leurs bottes. Alors il n'y en a qu'un qui a émis des remords, c'est le premier qui a été condamné. Mais tous les autres continuent à penser que la justice actuelle n'est qu'une nouvelle déclinaison du terrorisme d'extrême gauche. Pour eux, les droits humains, c'est un prétexte, c'est une arme utilisée par la gauche contre eux. Il y a vraiment une fracture idéologique qui est très forte. C'est des gens qui ont cette propagande, les a totalement pénétrés. Ils se disent très croyants. Donc pour moi, c'est un peu désilluminé. C'est un peu désilluminé, voilà, il n'y a pas que dans l'islam des suicides, il y en a dans le catholicisme aussi. Et ils sont vraiment convaincus, il y a une dimension eschatologique, il y a une dimension, on va sauver l'humanité, on va purifier l'Argentine dans un Jourdain de sang, comme ils ont dit à une époque. Et ils pensent juste que nous, alors même moi, j'ai pas pu les approcher, évidemment, parce que je ne suis qu'une pauvre dégénérée à leurs yeux. Donc il y a effectivement un point de rupture où le dialogue est totalement impossible. Eux, ils s'estiment vraiment pris en otage. Ils se vivent comme des combattants qui maintenant combattent dans les tribunaux. Ça a été dit par Alfredo Astiz, ça. Voilà. Pour lui, c'est une nouvelle ligne de front, les tribunaux. Mais effectivement, je pense que la société bouge un peu quand même parce qu'on travaille la mémoire dans les musées, dans les expos d'art contemporain, dans les livres d'histoire. On peut espérer que ça ne se reproduira pas, en tout cas pas à l'identique, mais cette génération-là, elle n'a pas bougé, effectivement. Donc c'est assez... La seule journaliste qui a réussi à les faire parler, Marie-Monique Robin, elle s'est fait passer pour une journaliste extrême droite pour avoir accès à eux et pour avoir leur parole. Ce que moi, je me suis refusée à faire. Effectivement, mon directeur de thèse m'avait demandé un moment si ça m'intéresserait pas de recueillir aussi les témoignages des bourreaux. D'abord, ils n'auraient jamais accepté de me parler si moi, j'étais honnête. Et je, en tant qu'anthropologue, je ne me déguise pas, c'est pas, je ne peux pas, voilà, c'est pas... L'anthropologie, c'est une discipline du lien, et qui se construit autour des moments partagés et de l'empathie, et je ne peux pas construire ça avec ces gens-là. Donc effectivement, c'est les limites de mon travail, carrément. Aller faire une anthropologie de ces gens-là, moi j'en suis incapable, je ne sais pas comment il faudrait s'y prendre, mais... Vous vouliez dire quelque chose là ?
Oui, je pensais que c'est en Argentine que l'on dit qu'il n'y a plus de problème avec les Amérindiens parce qu'on les a tous tués.
Oui, oui.
Donc c'est quand même quelque chose de particulier, quoi.
Alors, ça, je l'évoque un petit peu en introduction. C'est vrai que c'est aussi pour ça que le rapport à la dictature, il est hyper complexe en Argentine. Les gens ici me disent beaucoup « Ah oui, mais l'Amérique latine, elle est aimantée par la violence. Chez nous, ça pourrait pas arriver, une dictature comme ça. » Ça me fait dresser les cheveux sur la tête, parce qu'on en a eu des pas mal aussi, hein, nous, des dictatures. Mais c'est vrai que, par contre, c'est un pays colonial qui est construit sur un génocide. En Argentine, plus encore que dans les autres pays d'Amérique latine, parce qu'effectivement, la chasse à l'Indien a été particulièrement féroce. Il y avait des primes au nombre de paires d'oreilles ou d'organes génitaux ramenés. Donc on me dit que les Amérindiens, que les indigènes d'Argentine, en fait, ne sont pas argentins. C'est plutôt des Quechua qui sont revenus du Chili, c'est plutôt des Guarani qui sont revenus du Paraguay, mais que des natifs de cette terre-là, finalement, il n'y en a plus. Donc c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est vrai que c'est un pays qui est très blanc, qui est très raciste. Je crois que sur toutes mes allées-venues en Argentine, j'ai croisé une fois un noir, et il était brésilien. voilà, c'est très complexe pour eux de s'intégrer. Du coup, comme le pays est très blanc, les nouveaux qui émigrent ne vont pas dans ce pays-là, ils vont plutôt au Brésil à côté, et donc ça reste un pays très blanc. Puis il y a la petite blague qui court en Amérique latine, hein, qui dit, voilà, les Incas... Les Mexicains descendent des Mayas, les Péruviens des Incas, etc. Mais les Argentins, ils descendent des bateaux.
C'est pas une blague.
Mais c'est pas vraiment une blague. C'est une blague. Voilà. Et c'est vrai que l'Argentine, du coup, ouais, c'est une dictature un peu... Bah, comme le Chili, ils sont à l'origine du plan Condor, d'ailleurs, ces deux pays-là. C'est vraiment des pays qui ont importé avec eux, avec leurs colons, tous les travers de l'Europe. Mmh. Et donc, le début du XXe siècle a vu débarquer tous les juifs qui fuyaient l'antisémitisme en Europe. Et puis, les années 40 ont vu débarquer les nazis. Et puis, par-dessus, on a le communisme et la guerre froide. Et le pot pourri a vraiment pourri. Voilà.
Faudrait qu'on finisse sur une bonne nouvelle ou un truc.
Eh ben oui.
Ah non, j'ai
pas trouvé.
on a le temps de trouver encore. En le relisant, j'étais frappée aussi quand même. Enfin, c'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, mais quelque chose que j'avais pas perçu tellement c'était évident de voir que. On avait quand même une clandestinité contre une autre clandestinité, même si il a été perçu assez vite que l'État et la dictature tiraient les ficelles, tout ça se faisait quand même en dehors. Et comment est-ce que rétrospectivement les gens que tu as rencontrés percevaient ça?
Eh ben,
est-ce qu'ils avaient encore ce sentiment de vivre dans la clandestinité ou dans du fait de leur simple appartenance à la famille des disparus, ou est-ce qu'ils arrivaient à être à nouveau dans la société sans plus avoir ce côté souterrain? Est-ce qu'ils avaient encore des engagements politiques? Est-ce qu'ils ont repris des engagements politiques pour certains? Bien sûr, pas dans l'immédiat des disparitions, mais une décennie après.
Alors moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment un moment charnière, puisqu'il y avait l'arrivée des Kirchner au pouvoir et l'annulation des lois d'impunité. Là, tout d'un coup, ils avaient... Bon, ça n'empêchait pas les tensions, ça n'empêchait pas effectivement des enlèvements comme celui de 2006, donc où Julio López, le témoin principal d'un des procès, a disparu le matin de la sentence, en étant appelé le disparu 30001 par les tortionnaires, surnommé le disparu 30001, donc avec une référence claire à la dictature. Hormis ces petits moments-là, ils avaient le droit d'exister sur la scène sociale. Mais les 20 années précédentes étaient très très compliquées, oui, parce que d'ailleurs leur slogan, c'est mémoire, vérité et justice. Et la mention de vérité a été très compliquée pour eux aussi pendant tout un moment. C'est-à-dire qu'ils préféraient dire ils ont été enlevés par hasard, il suffisait d'être sur une liste, sur un carnet d'adresses, il suffisait d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour être enlevé. Ils préféraient effacer les engagements politiques de leurs proches pour qu'on reconnaisse leurs proches comme victimes. Et ça a mis 20 ans, ça, à pouvoir sortir. Et ben non, en fait, ils avaient un engagement politique, et c'est pour ça qu'ils ont été enlevés, sauf quelques petites exceptions, évidemment, hein, parce que quand on a au pouvoir des gens qui ont tout pouvoir, tout est toujours possible, mais dans l'immense majorité des cas, ils avaient un engagement politique, et finalement, c'est les trahir une deuxième fois que de prétendre qu'ils n'en avaient pas, et de cacher leurs idéaux. Donc ça, c'est les 10, 15 dernières années, 20 dernières années, qui ont permis aux familles de le sortir et du coup d'avoir un vrai travail sur ce que c'était que ces guérillas, ce que c'était que les mouvements ouvriers, en quoi ils étaient imbriqués ou pas. Mais sinon, oui, ça a été vécu vraiment dans le silence, parce que c'était très 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 mal vu. C'était quand même effectivement une minorité agissante. Voilà, que dire, oui. Et c'est probablement ce qui les a perdus aussi, c'était le côté clandestin, c'est-à-dire que quand la répression a commencé à devenir plus féroce, ils sont passés dans la clandestinité, ils ont falsifié leurs identités, ils se sont cachés, etc., en espérant se protéger. Mais en fait, plus on est invisible, plus on est des cibles. Là, Julio López, qui a été enlevé en 2006, il était donc témoin principal dans le procès contre Miguel Etchecolatz, qui est un commissaire tortionnaire de la dictature. Julio López était la première fois de sa vie qu'il témoignait. Il était témoignage fleuve pendant ce procès-là, mais c'était la première fois. Il a été enlevé, il a disparu. Tandis que Victor Bastera, qui est un des survivants témoins clés de la dictature, lui, il a vécu 3 ans dans l'ESMA, le plus grand camp de Buenos Aires. Il a réussi à en sortir vivant. Dès la chute de la dictature, il a mis sa famille à l'abri, il a exilé sa famille, Et il a commencé à témoigner tout de suite. Et il a témoigné partout, 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 partout. Au point que ma soeur Cécile et moi, on a fait un film sur lui. Et donc, quand Julio Lopez a disparu, on était en train de tourner le film. On s'est posé la question de est-ce qu'on met en danger Victor ? Et tout le monde nous a répondu ben non, parce qu'en fait vous le visibilisez. Si vous le visibilisez, vous le protégez. Ce qui a perdu Julio Lopez finalement, c'était son invisibilité. Effectivement, alors Victor il a quand même survécu à des attentats, c'était quand même pas tout rose, mais dès qu'on touche à Victor Bastera, tous les médias en parlent. Donc c'est plus compliqué d'aller le faire disparaître. Et donc voilà, c'est vrai que rétrospectivement, les militants de gauche argentins se disent qu'ils n'auraient pas dû se cacher. Il fallait au contraire s'afficher plus. Mais c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Quand tout est contre nous, quand tous les médias sont contre nous, c'est difficile de faire entendre sa voix. Donc là, c'est l'enjeu de ces nouvelles années maintenant, c'est d'arriver à écrire une histoire dans toute sa complexité et de dire oui, c'était des militants politiques. Alors il y en a qui faisaient de l'alphabétisation dans les bidonvilles. Et puis oui, il y en a qui avaient pris les armes, qui avaient fait ce choix-là. Et pourquoi ? Et voilà. À l'époque, ils auraient pu être condamnés à la prison à perpétuité. Quand la dictature a pris le pouvoir, elle a rétabli la peine de mort pour les opposants politiques. Donc ils auraient pu être condamnés à mort. Mais la dictature a fait le choix délibéré du crime contre l'humanité. Donc qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Finalement, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la recherche de la vérité historique. Et pour ça, il faut convaincre les victimes, effectivement, aussi, de dire toute la vérité, quoi.
Est-ce que tu sais ce qu'il en est actuellement, justement, en termes d'enseignement en Argentine ? Comment l'a fait là ? Maintenant, c'est trop loin. Enfin, c'est... Je dépasse le cadre de ton livre, mais...
Alors, ça dépend beaucoup des provinces, comme c'est un état fédéral. Pour ce que j'en perçois, alors je ne suis pas spécialiste de l'éducation secondaire, pour ce que j'en perçois, c'est un petit peu comme la guerre d'Algérie chez nous quand même. C'est-à-dire que ça vient tard, et ça vient que dans certains milieux sociaux. Par exemple, moi je suis belge, j'ai commencé ma scolarité en Belgique, et j'ai fait le secondaire en France. Et j'ai découvert en arrivant en fac d'histoire en France que les événements d'Algérie, c'était une guerre de décolonisation. C'est-à-dire que dans le secondaire, je ne l'avais absolument pas perçu. Et voilà, du fond culturel d'où je viens, si mes parents avaient été français, je l'aurais su. J'étais plus au fait de ce qui s'était passé au Congo, quoi. Mais effectivement, c'est encore très dépendant du milieu social duquel on vient, clairement. Et c'est vrai que mon livre peut donner l'illusion que toute l'Argentine a fait un travail de mémoire incroyable. Or, c'est quand même des microcosmes à chaque fois de militants des droits humains, de citadins, de gens qui sont confrontés à la culture. Autour des 30 ans de la dictature, il y a eu énormément de spectacles, d'œuvres d'art, d'expositions sur le sujet qui ont beaucoup travaillé la chose. Et la fiction argentine l'explore beaucoup quand même, donc, y compris le cinéma. Donc ça, je pense que c'est ce qui touche le plus de monde finalement, plus que l'école. C'est des films comme Infancia Clandestina qui est passé ici, Enfance Clandestine qui est passé en France il y a un peu moins de 10 ans, je pense, de Benjamin Avila, qui est lui-même fils de militant argentin. Qui a dû vivre dans la clandestinité et qui raconte son enfance à se cacher des escadrons. Ça, c'est un film qui a tourné au niveau international, mais aussi en Argentine, parce que parfois c'est pas le cas, et qui aide à vous parler, clairement. La fiction.
Pardon, et d'ailleurs, est-ce que le livre sort
en Argentine ?
En Argentine ?
C'est pas prévu pour l'instant. je l'ai vraiment écrit pour un public européen en même temps, je sais pas, mais j'en ai parlé, donc en fait, les témoignages sont bilingues pour que les témoins puissent. Pour l'instant, ils peuvent pas. Je leur ai expliqué en quelques mots le parcours que je faisais, mais je peux pas tout leur écrire en espagnol, ce serait trop de temps. Donc au moins, les témoignages bilingues, eux déjà savent ce qui de leur témoignage a été retenu. Pour tous les exilés latinos en France, ça leur permet d'avoir accès à la première langue aussi. C'est une façon de faire une anthropologie décoloniale aussi, entre parenthèses, laisser la parole authentique, pas traduite. Et donc il y a au moins ça d'espagnol, mais c'est vrai que je l'ai écrit en pensant au public européen et je pensais que ça allait ennuyer les latino-américains de se retrouver avec l'explication de tout le contexte, et c'est un pays colonial, et l'anticommunisme qui émerge sur la scène latino-américaine, et telle loi, et tel état d'urgence en telle année, qui fait que... Et en fait, les Argentins disent, mais pas du tout, parce qu'en fait, on n'est pas au courant non plus, ou très peu. Moi, je me suis appuyée sur quelques travaux d'historiens. Il y a des travaux d'historiens, mais c'est vrai que pour le grand public, finalement, revenir dessus... Et donc, Miguel Benassayag, qui fait la postface, il est argentin lui-même, et il a beaucoup insisté sur l'importance que je revienne aux faits historiques, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est à l'ère des fake news, en plus, et qu'en Argentine, comme ici, revenir aux détails, c'est parfois bon. Donc, finalement, peut-être qu'il pourrait être traduit, l'affaire à suivre, si un des témoins fait le lien avec une maison d'édition là-bas. Ça pourrait. Mais non, pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui a le plus tourné, c'est le film, mais partout. Le film documentaire que j'ai fait avec ma sœur en 2009. L'avantage du film, c'est qu'on a les sous-titres en français et puis on a tout le reste en espagnol. Et puis, il n'y a rien à faire. Le cinéma, c'est quand même un médium qui marche bien, qui fait moins peur. Là, 336 pages sur l'Argentine, ça fait flipper. C'est pour ça aussi qu'on a mis de l'art, on essaye d'adoucir le passeport.
Ça accompagne.
En fait, on a monté une expo interdisciplinaire pour les 40 ans de la dictature, les 40 ans de la ronde des mères de la place de Mai, qui est une expo pour l'Opéra de Lyon, où il y avait donc des peintures, des sculptures, des gravures et des textes anthropologiques que j'avais écrits sur les banderoles, comme ils font là-bas, sur des banderoles en tissu. Et une amie qui conçoit des expositions m'avait dit « Oh là là, Alice, mais tu planes !» Les gens lisent en moyenne 2 phrases par expo, quoi. J'avais écrit des kilomètres de banderoles, des banderoles de 2 mètres de haut. Et en fait, on a eu des gens qui restaient 1 heure, 2 heures à lire dans l'exposition, avec 2 arguments, qui étaient que les tableaux ou les œuvres d'art leur avaient vraiment envie de comprendre mieux. Et le deuxième argument, c'est que ça avait été fait à la main. Et que si quelqu'un s'était cassé la tête à écrire à la main, il fallait quand même au moins prendre le temps de lire. Et c'est vrai que c'est cette expérience-là qui a fait naître les éditions des Colomboles aussi. L'idée que la pensée sociale, si elle dialogue avec de l'art, elle est tout de suite beaucoup plus accessible. Ce qui n'empêche pas de faire quand même quelque chose de très précis. J'essaye surtout de ne pas jargonner, être précis sans compliquer les choses inutilement. Et puis l'art, ça donne des respirations, ça permet de parler aux émotions autrement. Donc on a par exemple décidé d'accompagner tous les témoignages de portraits des témoins à chaque fois. Donc cela, c'est ce que j'ai fait moi. Donc il y en a 33, donc j'ai pas fait la majorité. La majorité, c'est Michel Le Père, donc ma maman, qui les a fait, qui a fait aussi la gravure de couverture spécialement pour le livre. Elle a attendu la toute dernière minute parce qu'elle voulait la dimension exacte de la tranche.
Pour avoir un visage entier.
Pour avoir Aide Gastelu de García Abuela sur la tranche. Parce qu'Aide, c'est un peu ma grand-mère de la place de Metz, c'est celle qui m'a le plus accompagnée, qui m'a accueillie, qui avait une fille qui s'appelait Alicia aussi. Et un fils qui étudiait l'anthropologie, donc il y avait vraiment un écho très fort. Et elle est décédée en décembre, donc elle a tout juste pas vu le bouquin fini. Donc j'étais très 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 déçue. Mais en même temps, sa famille m'assure qu'elle savait qu'il sortirait, qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Et donc elle, c'est une des fondatrices, une des 14 premières. Elle s'est pas fait enlever avec les autres parce qu'elle n'était pas au rendez-vous. Elle était en retard au rendez-vous où les autres se sont fait enlever. C'est son foulard qu'elle a porté toute sa vie, du coup, depuis 1977. Qui est rentrée là, il y a 2 mois, au Musée National Argentin, comme témoignage historique de l'histoire des mères de la place de Mai. C'est son foulard qui est au musée maintenant. Voilà. Donc on voulait qu'Aïdé soit sur la tranche. Donc ma maman Michel nous a fait ça. Voilà. Donc elle fait du figuratif. Voilà. C'était important que les témoins ils soient là, entiers, quelque part. Dans le livre précédent que j'avais fait une courte biographie de chacun. Et prénom, nom de famille, etc. Quelque chose de plus... classique peut-être, avec des portraits aussi en photo. Et là on s'est dit que voilà, il y a tellement d'informations dans ce livre que commencer à redonner en plus la bio de tout le monde, c'était peut-être pas forcément le plus, puis ça avait déjà été dans l'autre livre. Donc ils ont juste un prénom, mais ils ont vraiment un visage qui revient chaque fois et qui permet, je crois, on m'a dit de vraiment bien s'y retrouver quand même.
C'est vrai, dans l'expérience de lecture, c'est très agréable parce qu'on est selon notre façon de lire, on va plus ou moins se rappeler le prénom, etc. Et là, le fait de retrouver leur portrait, on arrive vraiment à reconstituer, à constituer une relation directe avec les personnes que tu as rencontrées. Donc c'est Et ça vient vraiment les incarner, plutôt que si on extrait des témoignages, ou c'est une suite de témoignages dans la continuité du texte. Là, c'est vrai que la mise en page, le fait qu'il y ait la langue espagnole qu'on peut lire, même si on ne la comprend pas, plus leur portrait, ça en fait une lecture plus riche et plus émouvante, ouais, je crois. Ouais.
Puis c'était une façon de ne pas les déposséder aussi, parce que si c'est juste des petites citations qu'on utilise, finalement, elles deviennent un outil pour l'argument du chercheur, c'est surtout ce que je voulais éviter à tout prix. Donc j'ai plutôt construit autour de leur témoignage, la structure du livre vient plutôt de leur récit que de ce que moi j'aurais eu en tête au départ. Voilà. Okay. D'ailleurs, c'était pour la note d'optimisme, je suis arrivée en Argentine pour questionner cette question de la disparition qui me touchait pour plein de raisons psychanalytiques qui sont expliquées dans le livre, mais je pensais pas que j'allais travailler à ce point en fait sur les pulsions de vie et sur la résistance et sur quelque chose de finalement très très positif. C'est que ces femmes, elles ont tenu face au pire et elles en ont fait sortir des choses absolument magnifiques, notamment leur sororité qui a tenu 45 ans et plus encore à venir, la transmission aux nouvelles générations, le côté transclasse incroyable, c'est-à-dire que des grosses bourgeoises ou des femmes issues même de milieux militaires se sont retrouvées meilleures amies de toujours avec des femmes de milieux très modestes ou indigènes. Ça a créé une mixité sociale incroyable, ça a créé de l'art, ça a fait jaillir plein de choses. Il y a une des mères, Tati, qui dit qu'elle s'est sentie mise au monde par son fils, du coup, en fait. Mise au monde par la disparition de son fils. Enfin, elle a eu l'impression que vraiment, elle découvrait un autre monde avec toute son horreur, mais aussi avec tout ce que, dans des situations pareilles, tout ce que on peut découvrir de merveilleux de l'humanité aussi, quoi, de solidarité. Donc je pensais pas que je travaillerais à ce point là-dessus, c'est vraiment elles qui m'y ont amené. Il y a un côté assez initiatique. Donc c'était important qu'il y ait du figuratif, parce que le figuratif, ça les incarne. Après, il y a aussi de l'art abstrait avec Oud qui travaille sur le tissu, parce que voilà, c'est une métaphore, le tissu, le tissage, le lien social, le fil tenu entre les générations, enfin voilà. Et puis Oud est une amie d'enfance, en fait, elle aussi. Et Oud, elle a grandi en Allemagne de l'Est, donc elle a grandi dans une dictature. Au moment où j'ai commencé à travailler sur ce livre, elle a perdu sa maman d'une sale maladie, la même maladie que Stephen Hawking, là, une maladie dégénérative très très lourd, donc c'est pas un crime contre l'humanité, mais c'est quand même une sacrée souffrance familiale. Et Oud a décidé d'intégrer la question de la relation à sa mère, de la transmission et du deuil dans son travail. Donc on a un regard plus intime, on va dire, plus sensoriel, plus intime, mais abstrait avec elle. Voilà.
Vous avez la parole si vous le souhaitez.
Je voulais savoir, par rapport à votre thèse d'anthropologie, vous vous êtes servi de...
Si je m'en suis servi pour ce livre, oui, ben, alors c'est, on va dire que c'est les mêmes matériaux de base. Oui, voilà. Quand j'ai dû faire ma thèse assez rapidement parce que j'étais allocataire de recherche, donc j'étais financée par le ministère de la Recherche pour faire ma thèse. Donc à ce moment-là, on est attendu, on a 3 ans de financement et bon... J'ai aussi fait un enfant, donc je l'ai rendu en 4 ans. Mais voilà, j'ai pas passé les 15 ans nécessaires dessus. Donc j'ai eu l'impression de rendre un devoir. Et puis en plus, il y a plein de règles à l'université qui font qu'on fait quelque chose de très formaté finalement, de presque uniquement théorique, même si déjà j'avais intégré les témoignages et que ça, le jury avait apprécié ça. Hein, mais... On ne peut pas se permettre d'être totalement révolutionnaire dans son écriture quand on soutient une thèse. Et je trouvais que ça ne convenait pas au sujet, finalement, du tout. Donc j'ai rapidement sorti, après ma soutenance de thèse en 2010, j'ai rapidement sorti un premier livre pour que les témoins aient quelque chose, qui s'appelle « Disparition et témoignage », qui est sur la question de qu'est-ce que c'est que témoigner de l'indicible, en fait, hein, avec l'exemple argentin. Mais j'étais encore sur ma faim, j'avais des heures et des heures et des heures de témoignages inutilisés. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je ne soupçonnais pas en arrivant en Argentine. Je pensais que j'aurais peut-être des difficultés à recueillir des témoignages. J'avais une collègue étudiante en anthropologie qui y était allée, qui était elle-même fille d'Argentin, qui n'avait pas vraiment réussi à déclencher la parole. On en a beaucoup discuté parce qu'alors moi, j'ai rien eu à faire. Je suis arrivée sur la place de Metz, je ne parlais pas espagnol en plus, je n'avais pas eu le temps d'apprendre l'espagnol avant de partir parce que j'étais boursière et que je ne voulais pas perdre ma bourse, qu'il ne fallait pas que je redouble et que j'y suis allée comme ça. Et je me suis dit, j'apprendrai sur le tas. Et donc, j'ai enregistré au dictaphone en comprenant pas le quart de la moitié de ce que la première mère de la place de Metz m'a raconté. Et, Et en fait, c'était le fait que je sois étrangère, je pense, qui fait que c'était si facile. C'est qu'ils pouvaient, ils n'avaient pas à se demander si de quel bord j'étais, si j'étais une espionne du bord opposé, si j'étais... J'ai eu quelques fois des questions sur mon nom de famille, consonance allemande, donc petit doute. Voilà, donc quand je disais que j'étais belge, alors là, en plus, la Belgique, elle fait franchement pas peur. Au Congo, je m'en montrais pas, mais en Amérique latine, pas de soucis. Et du coup, la parole se libérait hyper facilement et j'ai été ensevelie sous les témoignages. Donc voilà, je voulais quand même leur rendre justice.
Ça aurait été dommage qu'ils soient juste contenus dans un travail de thèse.
Voilà. Donc il y a une base commune et puis bah, du fait de les retravailler, il y a plein de nouvelles choses qui émergent en fait.
Oui.
Donc finalement, c'est plus le même travail. Et là, je me suis rendu compte que ce qui traversait quand même, ce qui reste incompréhensible, il y a deux choses qui restent totalement incompréhensibles pour les témoins encore aujourd'hui. C'est ce que tu dis, hein. Pourquoi les bourreaux en sont arrivés à faire ça et pourquoi on n'arrive pas à les faire revenir de notre côté de l'humanité, on va dire. Puis c'est l'abîme, hein. Il y a deux rives, il y a les témoins, les historiens, les chercheurs d'un côté et les bourreaux de l'autre. Et voilà, on n'arrive pas à créer
des travaux au niveau psychanalytique qui ont été faits.
Oui,
quand même,
bien sûr. Oui. Ben, on comprend des gens traumatisés, déshumanisés, conditionnés, etc. Mais après 20 ans, 30 ans de travail, de témoignages, d'être mis en face de leurs victimes, qu'ils ne continuent à ne pas bouger, ça reste assez insondable. Et puis l'autre grand questionnement, c'est lié en fait, hein, c'est comment l'humanité se construit et se déconstruit, comment on arrive à se déshumaniser à ce point, en tant que tortionnaire d'abord, et puis à déshumaniser ses victimes. Et comment, au fond du trou, on arrive à remonter quand même et à refaire de l'humanité, alors que voilà, Victor Bastère, qu'on a filmé, qui est un témoin important dans ce livre aussi, je veux dire, il a été torturé pendant des mois. Ils l'ont enlevé avec sa femme et son bébé de 2 mois. Ils ont menacé, ils le torturent à l'électricité, ils ont voulu lui poser son bébé sur le ventre pour torturer le bébé en même temps que lui. Du coup, bah, il a parlé. Il a sauvé son bébé et il a vendu les copains. Enfin, il a donné les noms des copains. Donc, il se vivait comme un monstre. Là-dessus, on lui propose de survivre, mais en échange, il faut travailler pour les tortionnaires. Donc, il se vit de nouveau comme un monstre. Et là, il se dit, si je fais ça, c'est pour les avoir, quoi. Donc, il s'est mis dès le premier instant en tête dès qu'il en aurait l'occasion, résister. Mais il ne savait pas du tout si ce serait possible. Or, comme il était ouvrier, typographe et photographe, il l'utilisait en fait pour leur fabriquer de faux documents d'identité. Parce que tous ces militaires et leurs complices, ils avaient une vie mafieuse parallèle à la vie de la dictature. Ils s'appropriaient les maisons des disparus, les entreprises des disparus, les voitures des disparus, etc. Donc il leur fallait des faux documents d'identité, des faux actes de propriété, des faux... Et donc Victor leur faisait tout ça. Et il a eu l'idée de faire semblant de tester le flash de l'appareil photo et de prendre à chaque fois, il avait besoin de 4 photos de chaque homme, de prendre à chaque fois en cachette une 5e photo et de cacher le négatif dans le papier photosensible parce qu'il le fouillait tous les soirs à la sortie du boulot, mais le matériel qui coûte cher, on l'abîme pas, donc on n'ouvre pas le papier photosensible. Et à la fin de la dictature, il a réussi à sortir les négatifs. Il était fouillé à la sortie aussi, mais en les cachant ses parties génitales. Et donc c'est une anecdote, mais ça dit bien à quel point on aurait pu le considérer complètement perdu, complètement déshumanisé. Et là, il a quand même réussi à résister, à faire des liens. Il est sorti, il s'est mis en lien avec les autres victimes, il est allé voir les maires de la place de mai. Il a osé dire à tout le monde qu'il avait craqué sous la torture, qu'il avait sauvé son bébé, qu'il avait parlé. Donc il a refait du lien social, il a résisté malgré tout. Donc moi, ça, c'est un grand mystère, quoi. Comment on se déshumanise ou on se réhumanise comme ça, à quoi ça tient. Et donc ça, je l'ai beaucoup travaillé dans ce livre, avec le seul mot barbare du livre, mais il y en a un quand même. je le dis,
c'est
le
bien.
Dis.
Bah oui, c'est le mot de la fin, comme ça, ce qu'on n'a pas dit encore.
Donc c'est l'anthropopoïèse, donc la construction de l'humain. Sauf que la poïèse en grec, il y a deux mots pour dire la fabrication en grec ancien, il y a la praxis qui donne le mot pratique et qui est un savoir-faire qui donne un objet précis, et la poésie qui donne la poésie et qui est faire pour le plaisir de faire ou pour la nécessité de faire, mais sans forcément avoir un but précis derrière. Et je crois que l'humain, reste humain tant qu'il est prêt à se remettre en question, à essayer, à tester, à se mélanger, à être en lien, et qu'on se déshumanise dès qu'on est dans le cloisonnement, finalement. C'est caricaturé, mais c'est ça, ces dictatures totalitaires, elles définissent à chaque fois ce qu'est un être humain, et ça doit être ça et pas autre chose. Donc en Argentine, il fallait être un homme blanc, chrétien, sinon on n'était pas argentin. On n'était pas droit et humain, comme ils disent. Et du coup, en cloisonnant l'humanité comme ça, il la déshumanise. Si l'humanité reste pas quelque chose dans le mouvement, on la perd. Voilà, c'est un petit peu l'idée philosophique, on va dire, qui traverse tout ça, ce à quoi les victimes m'ont amené. Et ça, c'était pas du tout dans ma thèse, par exemple. Ouais.
Mais ça prend une dimension différente de l'anthropologie classique dans ce que vous apportez.
C'est en fait le sujet. De toute façon, quand on est un chercheur, il faut idéalement ne pas venir avec des idées préconçues, observer ce qu'on a observé et en tirer des conclusions. Donc c'est un sujet qui va toucher. Crime contre l'humanité, ça vient tout d'inanimer, donc le social, le culturel, l'intime. Donc forcément, j'ai beaucoup lu de psychanalyse parce que c'était surtout les psychanalystes qui avaient travaillé la question en Argentine. Et puis voilà, il faut comprendre, il faut pouvoir s'adresser aux victimes. Et puis de façon générale, dans la recherche, c'est beaucoup des littéraires et des psychanalystes qui ont écrit sur la Shoah notamment, hein, qui est le sujet, le crime contre l'humanité le plus travaillé en France. Et puis à la philosophie, forcément, parce que pour moi, l'anthropologie, c'est assez proche de la philosophie, sauf que c'est de la philosophie de la vie quotidienne des êtres humains, mais c'est pas de la métaphysique, mais c'est... voilà. Et puis, l'anthropologie décoloniale, en tout cas, elle est très ouverte, comme ça, sur d'autres disciplines. Ça donne un fond de méthode. Voilà, c'est une méthode ethnographique au départ. C'est aller vers les gens, partager leur quotidien. Donc j'ai fait des manifestations, j'en raconte aussi. Il y a des moments où il y a des carnets de terrain bruts. Donc j'ai fait des manifestations avec eux. J'ai fait des exhumations avec des anthropologues légistes. J'ai assisté à des procès. J'ai fait ce que j'ai pu pour partager leur quotidien. Et puis j'ai surtout mangé des tonnes de pizzas et bu des tonnes de café avec les maires de la place de mai. J'essayais de pas caler trop de rendez-vous par jour parce que sinon je dormais plus de la nuit tellement elle m'abreuvait de café. Un cafecito, nena, tomate un cafecito. J'avais toujours peur que j'ai pas assez à manger parce que j'étais loin de mes parents, donc voilà. Voilà, c'était quand même des grands-mères, quoi. Donc,
c'est un peu l'anthropologie.
Autocours aussi, ils avaient mis un défi, ils avaient un poids à me faire attendre avant que je reparte. Puis quand on est une femme, en plus, on est super vite emmenée dans la cuisine. Hein. C'est recette de... c'est autant une thèse en cuisine que... Et comment servir le maté correctement. Et voilà. Et chaque fois que j'habille mes enfants quand il fait froid, je pense à aider parce qu'il faut les habiller comme des oignons, parce qu'il faut mettre plusieurs couches pour pouvoir réguler. Voilà. Et voilà. Donc, c'est aussi tout ça l'anthropologie en fait. Voilà. Donc je tiens à dire que je suis anthropologue parce que c'est tout ça que j'aime dans ce métier-là. Mais après, c'est vrai que le sujet, en fait, je pense que les frontières entre les sciences humaines et sociales, de toute façon, elles sont plus que poreuses. Donc c'est ce que les éditions des Colomboles veulent essayer de revendiquer aussi, c'est qu'on met pas dans un tiroir, et on met pas non plus forcément dans un tiroir la limite entre littérature et les essais. C'est-à-dire qu'on essaye d'écrire bien quand même, parce que moi, le nombre d'essais qui me tombent des mains, la majorité des essais me tombent des mains, littéralement, alors que le sujet pourrait être intéressant. Mais cette manie de jargonner, de devoir avoir l'air hyper technique, pour devoir avoir l'air scientifique, voilà, me sidère un petit peu. L'anthropologie, c'est une discipline du lien, donc il faut arriver à faire le lien avec les lecteurs aussi, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc,
non, mais ça va, c'est très lisible, merci. Ouais.
Alors, si c'est lisible, c'est notamment grâce à Thaïs, puisque c'était une des premières relectrices. Donc, oui, Jeanne et Messanta, c'était dans le Diwa aussi. Puis Julie Banzer, oui, j'ai trois relecteurs Diwa. Mon directeur de thèse, qui vit la moitié de l'année à Marignac, en Diwa. Donc finalement, et ça a été écrit intégralement dans le Diwa. Donc finalement, c'est autant Diwa qu'argentin. Voilà. Et puis pour l'espagnol, j'ai fait relire par une argentine, une fille d'exilé argentin, parce que j'avais d'abord fait relire à des amis qui ont relu le reste aussi, qui sont anthropologues mais qui ont travaillé au Mexique, et je me suis rendu compte à leur première correction que ça allait être plus le même espagnol, en fait il fallait vraiment quelqu'un qui parlait l'espagnol.
C'est un autre espagnol,
hein, voilà. Donc je fais rire tout le monde quand je parle, tous les hispanos quand je parle espagnol. Mais voilà, c'est quand même très différent dans toutes les conjugaisons, surtout. Et puis c'est matiné d'italien, puisque beaucoup d'argentins sont d'origine italienne. Donc voilà.
Donc t'as appris l'argentin, t'as pas appris l'espagnol.
J'ai pas appris l'espagnol, non, et j'ai appris l'argentin, clairement. D'ailleurs, ça m'arrive, quand les gens me voient parler espagnol de loin, ça m'arrive qu'on vienne me parler en italien. Parce qu'en fait, la musique, ça m'est arrivé dans un aéroport la dernière fois, la musique est la même, donc italien, tout content d'avoir repéré une italienne. Puis ça parle un peu avec les mains aussi, les argentins, mine de rien.
Ça, c'est ton côté belge, plutôt.
Peut-être aussi. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pu m'adapter aussi, c'est que moi aussi je viens d'un français pas très français, donc finalement l'espagnol pas très espagnol, ça me va bien. Voilà. Et où tu vis au Québec, donc voilà, on fait un mélange entre québéquisme, argentinisme et autres. Là, si vous voulez voir, oui, donc il y a des originaux, puis là c'est toutes les couvertures qu'on aurait pu faire. Je les promène avec moi, on a eu du mal à choisir. Parce qu'en fait, combiner deux artistes différents qui s'y retrouve dans la couverture, qui est toutes les infos. Comme c'est un essai, il y a le titre et puis il y a le sous-titre. Il y a mon nom, il y a la personne qui a fait la postface, il y a les deux. Ah, c'était un casse-tête au niveau graphique, donc on a amené ça, si vous voulez voir. Et voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup et bravo. Parce que c'était...
Merci,
merci. Merci à vous. Merci à vous. Les courageux du samedi soir.
Nous, c'est intéressant d'entendre votre... C'est un témoignage, en fait, votre travail, même s'il est, s'appuie sur des données qui sont vérifiées, qui m'ont été vérifiées par vous. C'est quand même un témoignage très fort au niveau humain.
Ben, merci. C'est le principe pour moi de l'anthropologie. Hein. Ben, l'anthropologie, c'est ça, c'est faire une espèce de médiation entre la vie. Alors au départ, c'était des peuples primitifs et sauvages, dans l'anthropologie coloniale, mais s'imprégner de la vie de certaines personnes, arriver à voir le monde comme eux, et puis se retourner vers sa culture et l'amener, cette façon de voir. Donc j'essaie de continuer à faire la même chose. C'est vrai que dans les conférences en général, je fais plus de l'histoire en fait. Hein. Les gens sont ma vie d'infos. Ouais.
Là, votre témoignage me fait penser quand même à ce qui se passe et ce qui s'est passé très fortement en Syrie.
Oui.
Aussi dans le comportement des êtres humains.
Tout à fait.
Et on peut s'interroger effectivement sur ce qui conduit un individu ou des individus après à se comporter de cette façon-là. Quand vous vous interrogiez sur les bourreaux.
Non, en fait,
on
fait des colloques. Hein, j'ai convié plusieurs fois à des colloques. Donc, il y a un groupe qui travaille sur les Genocide Studies. On se retrouve au Canada de temps en temps. Et donc, il y a des Arméniens, des Syriens, des Rwandais, des Juifs. Et on est toujours aussi. On peut trouver plein d'explications historiques, on peut trouver plein d'explications psychanalytiques, mais il y a quand même ce moment de basculement qui est de l'ordre de l'indicible.
Voilà, tout à fait.
Vraiment. C'est pour ça que c'est important de baliser les sentiers de la chute, c'est parce que quand même, rétroactivement en Argentine, on voit, il y a ça, là, il y a une loi d'exception, là, il y a des néologismes, ici, il y a de la propagande, là, il y a une déformation du réel, prédominance du fantasme sur le réel, il y a des choses. Le problème, c'est que quand on fait ça, on a des balises qui clignotent un peu partout, notamment dans la société française. Ça ne veut pas dire qu'on y est demain, ça veut dire que quand même, il y a des choses et qu'il faut... Ce qui est important, ce qui était important, c'est qu'en Argentine, à un moment donné, tout d'un coup, les milieux intellectuels et artistiques n'ont plus eu le droit de s'indigner, n'ont plus eu le droit de s'exprimer. Ils s'étaient considérés immédiatement comme complices du terrorisme à ce moment-là. Quand il n'y a plus cette liberté d'expression, là, je crois qu'on bascule, clairement. Oui, tant que les intellectuels peuvent continuer à s'indigner et qu'on ne leur dit pas qu'ils ont pété un plomb, qu'ils sont paranoïaques, etc., on peut se dire que la société est encore en train de travailler sur elle-même, quoi. À partir du moment où elle refuse ce travail sur elle-même, là...
Quand la parole est supprimée...
Comment ?
Quand la parole est supprimée.
Voilà, c'est ça. Et les divergences, en fait. Oui. Quand on cherche à supprimer totalement le conflit, c'est-à-dire que les sociétés sont faites de conflits et de tensions. Quand on veut nier totalement le conflit, qu'on veut imposer un modèle unique et dominant, là, on bascule.
Mais c'est trop tard. Quand on est là.
Voilà, quand on est là, c'est trop tard. Voilà. Donc je sais pas. Après, je prêche souvent qu'à des convaincus, hein, mais l'utilité aujourd'hui de parler de ces choses-là pour ici et maintenant. Là, ils m'ont beaucoup renvoyé en Argentine. Hein. Bon, maintenant, il faut que tu ailles bosser en Algérie, maintenant, il faut que tu ailles bosser sur. Voilà. Miguel Benassaya, qui donc, lui, c'est la postface, il y a un ancien. Ah, je vais pas y arriver, gradé, enfin, de l'ERP, de l'Ejército Revolucionario del Pueblo, donc il était guerriero. Il a été enlevé, d'abord, il était dans des prisons légales, et puis quand la démocratie trébuchante a basculé dans la dictature, il est passé dans un camp de disparition. Et il a été libéré, il a eu un gros coup de chance en fait. Hein. C'est que donc la dictature argentine avait assassiné deux religieuses françaises. Et l'État français a demandé à ce qu'on les libère, mais c'était trop tard, elles étaient déjà mortes. Donc ils ont proposé de libérer 5 Français en échange. Et ils ont eu du mal à trouver dans leur geôle 5 Français. Et il se fait que la mère de Miguel avait fui Vichy et était venue en Argentine. Donc il était français par sa mère. Donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé à Paris, libéré par le préfet de Paris d'alors. Donc voilà, petite boucle historique. Et il est devenu psychanalyste, il travaille beaucoup avec des gens il a beaucoup travaillé avec les exilés latino-américains comme psychanalyste forcément puisqu'il parle leur langue. Et là en ce moment il reçoit beaucoup de zadistes en fait. On va parler un petit peu de tout ça. C'est vrai que quand une société commence à nier à des victimes le statut de victime, on a un problème quand même aussi. Et là, on a ce problème clairement avec les zadistes.